décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 16, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, qu'as-tu au sommaire, Manu ?
Six jolis articles.
Joli. Allez, on commence par Next Impact. La Cour de cassation va examiner la redevance sur la musique libre diffusée dans les magasins par Marc Ries.
Alors, c'est un vieux sujet qui nous avait bien cassé les pieds à l'époque parce que des magasins
Saint-Maclou
avaient diffusé de la musique libre.
Évidemment.
Oui, eux-mêmes. Elle est de bonne humeur aujourd'hui, Max, c'est sympa.
C'était pas de la musique tout à fait libre, puisque en fait, c'était des licences non commerciales.
Ah oui.
En tout cas, des musiques qui n'étaient pas enregistrées à la SACEM.
Ouais, gérées par Jamendo.
Voilà, qui en fait se posait en concurrent de la SACEM en disant, plutôt que de payer la SACEM, on vous offre le même service mais moins cher.
Voilà, sauf que, eh bien non, ça ne marche pas au niveau du tribunal, il semblerait, donc ça reprend encore un coup, c'est-à-dire que là ça doit être en cassation et compagnie, et effectivement, Jamendo avait perdu contre la SACEM, avait réussi à dire non, on les gère.
Jusqu'en appel, donc ça passe devant la cassation. Effectivement, il y avait un principe de rémunération équitable qui fait qu'en fait, dès lors qu'on va vendre la musique, eh ben finalement, la SACEM se pose comme système incontournable, elle prend le pognon qu'on ait signé avec elle ou pas.
Que je trouve assez honteux, puisque si les gens n'ont pas voulu s'inscrire à la SACEM, c'est qu'ils veulent être rémunérés autrement, donc pourquoi leur prendre les sous ?
Et ben voilà, c'est tout l'enjeu, mais en tout cas, pour l'instant, la justice a donné raison à la SACEM, et c'est pour ça qu'on attend cette décision avec le plus grand intérêt.
ZDNet France, pourquoi nous vivons dans un monde de plus en plus open source, par Stephen G. Vaughan Nichols.
Une enquête de Red Hat, encore une qui vient de sortir, mais il y en a d'autres, il y a un deuxième article qui parle aussi de ce genre de sujet. Donc les entreprises aiment l'open source, donc le logiciel libre sous une autre forme, donc elles ne mettent pas en avant le côté éthique, mais ça n'empêche, elles font du logiciel libre et elles utilisent le logiciel libre, elles aiment le logiciel libre.
Finalement, c'est le plus important.
Au final, c'est très important.
Next Impact, le gouvernement ne prévoit pas de toucher à la loi CADA.
Donc la loi CADA, c'est commission d'accès aux documents administratifs, et c'est un petit outil, une administration sympathique que l'April notamment utilise pour faire des demandes d'accès à des documents.
L'April ou l'association Ouvre-Boîte que je salue
au passage, et oui, ils sont plutôt efficaces.
Voilà. Ils avaient rendu un avis positif pour savoir si du code source écrit par les services de l'État était ou non un document administratif, et la CADA avait dit oui, ce qui avait permis de débloquer pas mal de choses.
Oui, les impôts notamment, mais aussi des accès post-bac.
Oui.
Donc il y avait des algos qui étaient assez intéressants, qui avaient été ouverts grâce à ça.
20 minutes online, Google a saboté Firefox selon un ex de Mozilla.
Le sujet dont on va parler juste après.
L'usine nouvelle, le numérique peut-il venir au secours de la cathédrale Notre-Dame, par Sylvain Arnulf.
Et oui, donc là, on est en plein dans l'actualité chaude. Et il se trouve qu'il y a eu plusieurs articles qui sont sortis sur le sujet cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a un chercheur et un projet de numérisation qui a eu lieu il y a plusieurs années, quelques années, donc c'est pas très loin, et ils ont numérisé avec des outils laser, donc d'une manière assez précise, l'intérieur et l'extérieur de Notre-Dame, notamment des statues, et ce qui permettrait, ou en tout cas on peut espérer, de favoriser la reconstruction et d'aider à la reconstruction. Donc ce sont pas les seuls à avoir des informations sur Notre-Dame, mais là ce sont des informations libres, ce qui est mieux que, alors c'est Assassin's Creed, ils ont aussi beaucoup de données sur Notre-Dame, et oui, ils ont utilisé pour le jeu beaucoup de photos qu'ils avaient prises de Notre-Dame, mais ce n'est pas libre.
Lemonde.fr, la réforme controversée du droit d'auteur dans l'Union Européenne définitivement validée.
Donc c'est pas cool, il semblerait qu'il y a plein de gens qui disent, c'est la France notamment qui a poussé pour la réforme du droit d'auteur. Cette réforme du droit d'auteur est en train d'avancer, elle nous enchante pas parce qu'elle va bloquer pas mal de choses sur internet.
Voilà. Et on rappelle que réforme du droit d'auteur, ça se traduit plutôt en comment on va piquer le pognon à Google tout en restant complètement dépendant d'eux. Et on va voir dans notre sujet du jour pourquoi être dépendant de Google ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs c'est pas une bonne idée. Cet article, donc un ancien de Mozilla, donc l'éditeur de Firefox,
Jonathan Nightingale.
Et donc ce type quitte Mozilla, il arrête de bosser pour la fondation qui fait Firefox, et donc il affirme, en déclarant ne pas avoir de preuves malgré tout, que Google, qui donc édite Chrome, a consciencieusement saboté Firefox.
Et tu es sûr qu'il utilise le mot saboter lui-même ? C'est pas les journalistes qui utilisent le terme ?
D'avoir altéré l'utilisation du navigateur web.
Voilà, les mots sont importants.
Alors, sachant que c'est un enjeu considérable, ça s'appelle les parts de marché des navigateurs sur Internet, et il y a eu de gros combats. Internet Explorer et Microsoft, notamment, étaient les dominants il y a encore peu de temps, et c'est Chrome qui a déplacé IE, et ensuite Firefox, et aujourd'hui, ils sont à plus de 60% de parts de marché, largement, sur Internet. Donc, la plupart des gens se connectent à Internet par l'intermédiaire d'un outil fait par Google.
On rappelle, Chrome est plein à craquer de systèmes de surveillance des utilisateurs. Hein.
Donc, alors, ça n'empêche que c'est aussi basé sur un logiciel libre qui s'appelle Chromium. Donc, il y a du bon dans toute cette galère. Mais indépendamment, il se trouve donc historiquement que Google, des gens sympathiques et des bons citoyens d'Internet, ont contribué de manière assez considérable au financement de Mozilla et donc au développement du navigateur Firefox, bien avant qu'eux-mêmes fassent leur propre navigateur. Et c'était eux qui contribuaient à hauteur, alors je crois que c'était quoi, 300 millions de dollars par an
beaucoup
à la fondation
ouais.
Mozilla. Enfin, ça devait être de cet ordre de grandeur-là.
L'accord, Mag, c'était quoi?
L'accord, c'est que par défaut, dans Firefox, on utilisait le moteur de recherche Google. Donc, ça faisait de la pub à Google.
Alors, ça leur coûtait donc cette contribution à la fondation. Ça s'est reproduit sur plusieurs années. Et
c'était aussi un moyen de couper l'herbe sous le pied à Microsoft
oui.
en proposant en face un navigateur qui n'était pas le leur et qui soit totalement dépendant d'un grand groupe.
Donc, au début, il semblerait, d'après la personne qui donc fait toutes ces déclarations, il semblerait que Google était très fan de Firefox. Ils étaient enchantés de contribuer à ce projet. Et non seulement ils finançaient, mais ils aidaient et ils poussaient vraiment pour aller dans le bon sens. Jusqu'au moment où ils ont fait leur propre navigateur, ils ne rentrent pas dans les détails du
2007,
pourquoi.
2007, donc Chrome qui arrive sur le marché.
Il y a 10 ans, on rappelle, il y a 10 ans, il y avait des pubs dans le métro. Paris,
alors, il y a toujours des pubs dans le métro, mais
pour
là
Chrome,
maintenant...
Pour Chrome.
Il y avait des petits « Oups !» chez Firefox.
Et oui, ça c'est ce que dit donc Nightingale, c'est que Chrome et les sites de Google, surtout, régulièrement, ils étaient... un peu lent, un peu cassé sur Internet Explorer ou sur Firefox. Donc lui, il parle pour Firefox. Et donc, il constatait, alors que les navigateurs Internet Explorer et Firefox étaient très rapides, qu'il dit, hein, c'est ce qu'il annonce, et qu'ils étaient très efficaces sur les sites, y compris de Google, à un moment donné, pour une raison qui leur échappait à ce moment-là, leur navigateur ne marchait plus aussi bien. Et les optimisations qui avaient pu être faites à un moment, pour regarder des vidéos YouTube, par exemple, ne fonctionnaient plus du tout. Elles étaient cassées.
Je me souviens, il y a quelques années, où il y avait eu un cas comme ce qui était remonté dans la presse, où le site de Google, je ne sais plus si c'était YouTube ou autre chose, vérifiait quel était le navigateur qui se connectait et ne se comportait pas de la même façon en fonction du navigateur. Et donc, si c'était Firefox, il faisait un truc qui faisait que ça ne marchait pas bien. Et donc, assez rapidement, Google avait dit « Oups, pardon, c'est juste une regrettable erreur technique ». Et à l'époque, pas mal d'informaticiens que je connaissais disaient « Oui, c'est crédible, c'est possible de se planter, de faire une erreur ». Ils avaient fait ça pour un test et puis ils l'ont oublié de l'enlever.
Alors moi, en tant qu'informaticien, je peux te dire, on écrit beaucoup plus de bugs qu'on écrit autre chose. Hein. Ça fait quasiment partie de ce qu'on produit au final. Donc moi, je peux comprendre qu'on fasse des bugs. Mais il semblerait, en tout cas c'est ce que Nightingale décrit, c'est qu'il trouve qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, certes, les gens avec lesquels ils discutaient, ils voulaient bien croire qu'ils étaient francs et honnêtes dans leur oups, mais qu'à un moment donné, ils pensaient que c'était un peu plus que ça.
Moi, j'adore sa phrase « Je ne suis pas pour attribuer à la malice ce qui peut s'expliquer par l'incompétence ». Bon, après, il précise qu'il ne croit pas que Google soit aussi incompétent, mais j'aime bien la tournure malice-incompétence.
Oui, sachant que tout ça, c'est virgule, mais je pense qu'à un moment donné, l'incompétence n'explique pas tout non plus.
Le truc, c'est qu'il l'affirme, hein, il n'a pas de preuve. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller devant un tribunal ou quoi. Aujourd'hui, s'il prend un procès, il peut être dans une situation difficile. Et en fait, c'est toute cette problématique d'être dépendant, d'être dans un réseau qu'on ne contrôle pas, donc aller sur le site de Google, par exemple.
Avec éventuellement le navigateur de Google.
Voilà. Et dans ce cas-là, on est sur le terrain de Google et donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Et on n'a pas de moyen de prouver que c'est intentionnel, que si ça ne marche pas, c'est qu'il l'a voulu ou pas, quoi.
Alors, on n'a pas moyen de le faire facilement. Ça peut être un travail d'investigation, où là, j'imagine très bien des journalistes qui vont passer dans des tuyaux et aller ouvrir des dossiers et retrouver des historiques d'emails, parce que vraisemblablement, à Google comme dans d'autres entreprises, il y a des traces de discussions, de réunions et de décisions qui ont été prises.
Encore faut-il y avoir accès.
Ah c'est la
correspondance au sein d'une entreprise. Un journaliste n'a pas le droit d'aller fouiller là-dedans. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne accès.
Il n'a pas le droit de se faire prendre.
Oui. je pense qu'avec les moyens qu'ont Google, si quelqu'un arrive et leur fait vraiment un sale coup du genre, je pense qu'ils vont se donner les moyens de savoir comment ça s'est passé et ça peut mal tourner.
Tu sais que ça peut arriver aussi sur une erreur, hein, c'est-à-dire que ce genre d'information, oui, on s'est réunis, on a décidé de saboter consciemment quelque chose, donc un complot, hein, c'est typiquement le genre de choses dont on peut le décrire de cette manière-là. Toi, tu sais, tu as eu déjà l'expérience que ça peut se révéler par un accident.
Ah bon, Luc, raconte.
C'était professionnellement. Je menais un projet à l'époque où je travaillais dans les transports publics, dans l'information des transports publics. Donc, dans une région, SNCF était très présente. Et le client nous avait choisi parce qu'on n'était pas la SNCF et que ses relations avec la SNCF étaient mauvaises. Et donc, c'était une manière de les faire un peu chier, quoi. Donc, le projet démarre. Et évidemment, on avait besoin du concours de la SNCF puisque c'était le transporteur. Et les choses ne se passent pas bien. Et on nous met en copie de mail. Voilà, ça s'échange dans tous les sens.
Oui, j'imagine que ça doit faire mal. Un petit orage de mail à un moment donné.
Et on s'aperçoit que dans le mail que le type de la SNCF nous envoie, il y a tout l'historique de leurs échanges de leur côté. Et donc on remonte, il y en a plein. Et tout en bas, on arrive sur un mail du directeur régional qui gère le machin et qui dit « c'est notre concurrent ». Ils sont là pour nous faire chier, on va tout faire pour les pourrir. Et donc ça, c'était tout au fond du mail. Donc évidemment, des fois, il y a des perles de ce type-là. Mais bon, voilà, on sait que si on fait des trucs pas très nets comme ça, on va essayer de le cacher. Moi, ça me fait un peu penser à Apple et les téléphones qui ralentissaient.
Oui.
Il a fallu des années pour le prouver.
Ouais. Et alors, ça a été prouvé, je crois que ça a été admis par Apple à un moment donné.
Mais parce qu'on leur a mis le nez dans le caca quand même. Hein.
Et qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire que chaque nouveau téléphone qui sortait, tout le monde avait l'impression que les anciens téléphones des générations précédentes ralentissaient.
Oui. Bah, chaque sortie, il y avait des mises à jour pour les anciens téléphones. Et bizarrement, après, c'était plus long. Donc, des mises à jour qui étaient censées améliorer l'appareil ralentissaient.
Alors, tout le monde clamait au sabotage, mais personne n'avait de preuve.
Bah voilà, parce que d'un côté, on va dire oui, mais est-ce que c'est vraiment plus long ou est-ce que tu as l'impression que c'est plus lent? Et puis après, ils disaient oui, mais on a fait des mises à jour des logiciels pour s'adapter au nouveau système. Et donc, c'est normal que ça tourne moins bien sur l'ancien parce que c'est plus optimisé. Et puis, ouais.
Ça s'appelle de l'obsolescence. Ça, non ?
Non, bah non, c'est techniquement, c'est l'avantage. Ils ont tenu comme ça des années, quoi.
Mais vous vous rappelez, finalement, ils ont trouvé une excuse qui semblait passer, en tout cas, ça leur a permis d'éviter le tribunal, c'était de dire que pour économiser les problématiques de batterie, parce que les batteries des anciens téléphones, pour éviter qu'elles ne s'usent encore plus vite et que les anciens téléphones soient encore moins efficaces, ils ralentissaient exprès les anciens téléphones pour gagner un peu de durée de vie.
Personne n'y a cru, surtout quand on repense à la vieille histoire de l'iPod dont les batteries crevaient au bout de 18 mois, ça ne les a jamais chagrinés de faire ça. Mais bon, voilà, en tout cas, ça a été beaucoup de travail pour qu'ils admettent le truc.
Alors, moi, je pense à d'autres complots, mais alors là, c'était un trésor de complot qui avait eu lieu, alors j'ai plus les détails, mais qui avait été montré parce que Microsoft, qui était quand même l'acteur dominant des années 80 et 90, s'était retrouvé au tribunal pour abus de position dominante. Et à un moment donné, les procureurs et les institutions de l'État se sont donné le droit d'accéder aux archives de Microsoft. Mmh. Et dans ces archives, il semblerait qu'ils ont retrouvé pas mal d'informations qui pointaient sur des pratiques complètement déloyales vis-à-vis de leurs concurrents directs ou même de partenaires qu'ils ont pourris. Ils ont caché, par exemple, des API, c'est-à-dire des accès au système d'exploitation que Microsoft contrôlait. Eh bien, il y avait des accès qui leur étaient réservés à leurs propres applications et qu'ils cachaient aux applications tierces.
Voilà, et donc les leurs étaient plus performantes que celles des autres.
Bizarrement.
Et donc, voilà, leur logiciel marchait toujours mieux et plus vite, etc.
Et il y aurait eu pas mal de cas comme ça. Alors, je ne me rappelle plus des détails, ça remonte déjà à plus de 20 ans. Mais grâce à la loi et grâce aux tribunaux, on a pu mettre la main dessus. Et
on sait que les tribunaux, ça avance très très lentement. Donc, toute la difficulté et la complexité à prouver ce genre de démarche, elle vient du fait qu'on est dans un environnement fermé qu'on ne maîtrise pas. Et donc, du coup, comme on est en gros dans les tuyaux de quelqu'un, que ce soit sur son site internet, dans son réseau, etc., ben on est en gros
pieds
et mains liés. Et prouver quoi que ce soit devient très 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 difficile pour ces raisons-là.
En résumé, il ne faut pas être totalement dépendant, il faut mettre ses œufs dans plusieurs paniers.
Alors effectivement, on peut aussi penser aux normes. Les normes, elles sont là pour que tout le monde s'entende et fasse fonctionner les choses ensemble. Il y a cette notion d'interopérabilité qui est très importante, qui est de dire que plutôt que de dire à telle et telle personne « vous devez utiliser tel logiciel, rentrez dans tel réseau », il faut que tous les systèmes communiquent entre eux selon une règle qui est entendue. Mais même ça, ce n'est pas évident parce que les normes, elles peuvent être interprétées de façon différente.
Elles peuvent être interprétées, contrôlées, bidouillées, sabotées. Ben, on l'a vu aussi, Microsoft avait saboté des choses en lien avec les formats de documents. Ils étaient rentrés à l'ISO avec une norme toute pourrie, mais qui était passée quand même.
Qui était imbitable et qui eux-mêmes n'appliquent pas selon ce qu'ils ont déposé. Et donc, tout ça, on arrive finalement à une question de rapport de force. C'est-à-dire que si on est effectivement dans le réseau de quelqu'un, qu'on est complètement bloqué, il va faire à peu près ce qu'il veut. On l'a vu avec tout ce qu'on a pu dire sur YouTube précédemment, uniquement dans le domaine de la culture, par exemple. Mais c'est pareil dans l'informatique. Et en même temps, si on n'a pas de moyens, un, d'avoir de la transparence, et deux, un rapport de force suffisant pour forcer les acteurs en face à jouer franc jeu, eh ben on est foutu également. Quoi. Tout ça démontre que le fait d'avoir d'énormes acteurs qui pèsent aussi lourd qu'un Google, c'est très très mauvais.
Alors l'Union européenne agit là-dessus, il y a des choses qui sont en train d'aller au tribunal pour abus de position dominante, parce que Google aussi se retrouve dans des situations où ils ont, on suppose, en tout cas on imagine, abusé de leur situation de monopole
sur
leur domaine.
Dit dans l'article, hein, c'est Google et le nouveau Microsoft, et on peut imaginer voilà, qu'ils puissent utiliser ce genre de méthode pour plein de choses, pour que leurs outils prédominent et que tout le reste se mette à mal marcher.
On va espérer, faut qu'on travaille à plus d'interopérabilité, à se libérer de tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine.
On aille sur des chatons.
Ah
allez,
oui.
Salut.
Salut.
À la semaine prochaine.